Et c'est pour moi l'occasion de mettre en regard deux écrivains qui me sont chers, mais que, malgré ma manie du palimpseste, j'avais travaillé jusqu'ici séparément. Elle marche sur les pas de son oncle Marcel Schwob, écrivait-on en 1928 lors des obsèques de son père, Maurice. Plus que la fille, elle était devenue la nièce. C'est ainsi qu'elle était présentée par les initiés, anciens amis de Marcel comme Léoto ou Macorlan, ou lecteurs avertis comme André Breton. C'est ainsi qu'elle était désignée ou caractérisée dans les livres des uns et des autres. La périphrase est affichée en guise de carte d'identité, comme un signe distinctif qui lui donne une aura particulière aux yeux des surréalistes, comme une prédestination de bon augure, enfin. Cependant, et là réside le paradoxe, la référence à l'oncle sert de valeur ajoutée tout en escamotant la valeur propre de la nièce. En outre, elle impose a priori l'idée d'une filiation, même indirecte, dont la pertinence pose question. Les rapprochements possibles entre l'un et l'autre tiennent-ils forcément de la transmission ou simplement d'analogie, de tempérament ou de situation? Cet héritage supposé, culturel, social, esthétique, fut-il ressenti et utilisé comme modèle, comme aliénation à secouer, comme starting block d'une course personnelle? En quoi et jusqu'où et sous quelle forme l'œuvre de Claude Cahun serait-elle l'héritière, voire le prolongement de celle de Marcel Schwob? Comment cette prétendue filiation a-t-elle franchi le cap de la modernité, ou pour le dire autrement, le fossé que la Première Guerre mondiale a creusé entre les deux siècles? En somme, en quoi l'éthos littéraire de Claude Cahun fait-il écho à celui de Marcel Schwob? Alors, je me contenterai d'esquisser plus que sommairement, j'en suis désolée, des pistes de concordance selon les trois axes suivants. Des histoires de famille, un même bain culturel, et après, et deux œuvres au singulier pluriel. Alors, des histoires de famille. Le statut familial particulier de Marcel et Lucie Schwob à une génération d'écart présente un certain nombre d'analogies. Ces deux Benjamins, des surdoués renfermés, précoces et maladifs, couvés par Mathilde, leur mère et grand-mère respectivement, et craignant son autorité, ont quitté Nantes pour épanouir dans la capitale une vie hors norme familiale, tout en restant dépendants matériellement de Maurice, leur frère aîné et père, qui leur voue une affection inquiète et protectrice. Aucun des deux n'aura d'enfant. Moins conformiste que sa mère et son frère, Marcel, donc l'oncle, se montrait plein de compréhension envers Marie, l'épouse de Maurice et mère de Lucie, atteinte de troubles psychiatriques. Une correspondance émouvante montre la confiance que celle-ci accordait à Marcel. Ce que n'a jamais su Lucie, bien sûr. Ce relatif isolement dans une famille dont les ascendants et les aînés les comprennent mal peut expliquer une soif de connivence qui marqua leur vie et leur travail. Avant le couple Lucie Schwob, Suzanne Malherbe, compagne et co-créatrice, Marcel Schwob aspirait à la collaboration plus ou moins intime. Tout jeune, il faisait recherche commune avec Georges Guies, frère idéal, dont le suicide lui laissera la nostalgie d'affinités électives, affectives, ludiques et laborieuses. Plus tard, sa compagne puis épouse Marguerite Moreno, véritable âme-sœur, imitait parfaitement son écriture et prit sans doute quelque part à son travail. Au plan intime, dans la correspondance, Marcel écrit parfois au féminin et va jusqu'à signer Marcel de Zelleux. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Suzanne Malherbe ajouta à son pseudonyme mort le prénom Marcel. Les écrits de Schwob et Cahun portent la marque de ce compagnonnage gemellaire réel ou fantasmé. Le livre de Monel, inspiré par une première jeune compagne, vise peut être lu comme une série de variations sur un couple plus fraternel qu'érotique, et un brouillon émouvant affiche, répété en regard l'un de l'autre, effet de miroir et rime obsédante, les noms Marcel, Monel. Aveu non avenu, davantage discursif, est empreint d'un dialogisme complexe où une seconde voix, tantôt destinataire, tantôt émettrice, peut souvent être rapportée à une Suzanne toujours présente à l'esprit de Claude. Leurs œuvres respectives témoignent également de leur situation familiale problématique. Absence de famille dans les récits de Marcel, haine de la famille dans les propos de Claude. Chez Schwob, nul couple parental, et des personnages dépourvus d'ascendants, sinon quelques ancêtres contaminants ou un père à tuer. les sarcasmes de Caïn contre la Sainte Famille, qui trouvent écho dans les montages photographiques, ne se comptent pas. Quant à l'absence de descendance, elle semble s'imposer dans les récits de Schwab comme une malédiction, tandis que Claude Caïn tourne la procréation en dérision et justifie idéologiquement sa réticence. Ni l'un ni l'autre ne se cherche donc dans une généalogie, fût-elle fictive, mais parfois dans une autogenèse fantasmatique, et plus souvent dans des projections en quelque sorte horizontales, hors temps. L'alter ego, ou la panoplie de masques mythiques puisés dans leur culture, ou encore la figure de l'enfant. Un enfant sans famille. Noyau existentiel inaltéré face au monde adulte, temporel, social. Un enfant inquiet, chargé des troubles obscurités de l'inconscient mis au jour par la jeune psychanalyse. Émanation de désirs que n'entraverait aucune morale, que ne découragerait aucune lecture, que ne briderait aucun complexe. Notons que la seule photographie réunissant Marcel et Lucie, soit le deuxième photomontage d'Avenon Avenue, associe leurs deux portraits enfants au milieu d'une constellation de têtes adultes. C'est peut-être dans leur enfance, ces manques ou ces souffrances, que s'enracinent les thèmes du corps et de la cruauté. Corps absent, morcelé ou mutilé. Les personnages schwabiens sont peu incarnés, sinon dans la blessure ou la morbidité, ou à l'état de dessiccation post-mortem. Le corps démembré ou torturé est un leitmotiv dans Avenon Avenue. D'autre part, le théâtre de la cruauté construit par Caïn se joue déjà dans les contes de Schwab soumis au régime de la terreur. Quant au sadomasochisme des petites sœurs de Monel, il se retrouve chez Caïn distribué avec complaisance et humour entre ses héroïnes, comme dans certaines élucubrations des éphémérides et d'aveux non avenus, où il est fort souvent appliqué aux relations familiales. Alors peut-on pour autant parler de transmission entre deux parents qui ne se sont, pour ainsi dire, pas connus, puisque Marcel est mort bien avant l'arrivée de Lucie à Paris? Rien de comparable, en tout cas, avec l'influence directe exercée sur Marcel par son oncle Léon Caïn, le savant écrivain chez qui il a séjourné des années et qui l'a guidé dans ses études. Pourtant, l'oncle écrivain Marcel, dont la grand-mère Mathilde entretient la légende, demeure pour Claude une figure de référence, une absence tutélaire, si on peut dire, un fantôme familier, que l'article Marcel Schwab, publié dans la Gerbe en 1920, présente comme un miroir. Don de vue et de vision, souci de différenciation, égoïsme, bovarisme, jeu de masque, etc. Lucie recueille pieusement une partie de la bibliothèque de Marcel. C'est elle qui fait éditer à Pierre Champion les lettres de Samoa. Un récit de rêve mentionne, dans une inversion plaisante, un oncle de l'enfant, de 33 ans, héritier éventuel. Tandis qu'une lettre laisse imaginer, une lettre de Marcel laisse imaginer celui-ci, en éclaireur traçant le chemin à sa nièce. Résidant à Jersey pour raison de santé, il découvre, je le cite, Sainte Brelade, qui est une baie charmante, et d'ailleurs il a une discussion avec le recteur, etc., ce qui deviendra, comme on sait, le lieu d'élection de la nièce. Mais le legs objectif et vivant, ce sont les relations humaines. Outre les gens du Mercure, dont je ne dirai rien puisque je pensais qu'il allait en être question, Claude Caïn va fréquenter des membres de la famille qui ont la mémoire de Marcel, puis des amis de Marcel et Moreno, gens de théâtre, et enfin Pierre Champion, disciple, éditeur et biographe de Marcel Schwab, à qui elle écrit en signant « Votre amie est presque nièce ». Alors, deuxième point, donc, le bain culturel. Et, j'ajoute « et après ». La culture familiale des Schwab est prégnante. Judéité, érudition, journalisme, goût des mascarades. Marcel et Lucie Claude, nourris de ce même terreau, vont l'exploiter différemment, en fonction de l'époque et de leur tempérament. Alors, de la question complexe de la judéité, je ne dirai que deux mots très schématiques. Pour Marcel, puis pour Lucie, c'est l'affaire Dreyfus qui sera un révélateur douloureux. Perte d'amis pour lui, persécution pour elle. Tous deux oscillent entre une distance ironique d'intellectuels non-croyants évoluant dans un contexte majoritairement non-juif et une revendication ironique également, mais lancée comme un défi un peu romantique, de leur appartenance à la race maudite de Caïn par la lignée de Caïn, pseudonyme d'ailleurs choisi par Lucie. Cependant, la judéité imprègne différemment leurs récits, leurs écrits. Refoulée chez Marcel Schwob, elle transparaît dans des récits tragiques, hantés par la malédiction ou par des tares héréditaires comme la lèpre. Chez Claude Cahun, elle est un des fondements de l'autodérision qui traverse Avenue non avenue, mais aussi une profession de foi intime. Le récit de rêve Pierre Tombal évoque deux pieds aux orteils écartés, comme le sont les doigts des mains selon la tradition juive, sur le tombeau parisien des Cahun, où est d'ailleurs enterré Marcel Schwob. Deuxième plan, une culture érudite. Alors, par-delà les exigences scolaires, quelquefois à la rencontre, Marcel et Claude ont acquis une solide culture classique à la française, augmentée de la lecture des philosophes allemands et des auteurs anglo-saxons, ainsi que d'une vaste littérature légendaire pour faire court. Claude apprécie les mêmes livres que son oncle, dont elle a également beaucoup et très bien lu les livres. Leurs écrits portent la marque de ces lectures. Ce sont des œuvres truffées, qui déclinent toutes les modalités de la citation, surtout cryptées et souvent perverties, sous forme de millefeuilles narratifs ou de proférations diverses. L'ironie donne du relief à leur innutrition, plutôt par discret détournement chez Schwob, par inversion souvent iconoclaste chez Cahun. Leur retraitement parodique des contes merveilleux en particulier montre à la fois d'innombrables résonances entre leurs récits respectifs et deux types de perversions différents. Alors je me suis autorisée un seul exemple pour l'exposer. Par exemple, dans la Cendrillon de Schwob, l'exaucé, Thanatos se substitue à l'éros attendu et infiltre un merveilleux qui est devenu inopérant. Celle de Cahun déploie la palette de l'humour entre effets de décalage et surenchère burlesque. En tout cas, tous ces palimpsestes, modèles d'appropriation et de manipulation intelligente, supposent naturellement que le lecteur y joue sa partie. J'irai très vite sur le journalisme et la politique, parce que je pensais que ce serait traité, de toute façon, je n'ai pas le temps. Le journalisme est l'affaire de la famille, à laquelle Marcel puis Lucie-Claude prennent une part active. Je passe donc sur la question, sinon pour rappeler deux petites choses. D'une part, que leur connaissance des pratiques journalistiques leur inspira de savoureux détournements satiriques, mœurs et diurnales dont Schwob était très fier, et les éphémérides qui scandalisèrent les autos. D'autre part, qu'au-delà de leur communauté d'idées, hostilité à la colonisation, comme au nationalisme de Maurice, hein, pour les deux, Marcel se cantonne dans une posture politique modérée, récusant les excès de l'anarchisme et du féminisme, alors que Claude poussera à l'extrême les valeurs individualistes. Théâtre et masque, enfin. Non seulement la famille Schwob fréquentait assidûment les théâtres de Nantes et de Paris, mais elle s'impliquait, depuis Georges le Père, dans la tradition nantaise du carnaval. Marcel adorait se déguiser, jouer des rôles, mais en privé et pour rire. On sait l'usage artistique que fit Claude du travestissement. Marcel fut le compagnon d'une femme de théâtre, traduisit, critiqua, écrivit lui-même des pièces. Claude fréquenta des hommes et femmes de spectacle, danse comprise, et se risqua à interpréter plusieurs rôles dans des pièces d'avant-garde. Alors qu'il demeure homme d'écriture, elle engage son corps dans l'aventure. L'importance de la mascarade se donne à lire dans les deux œuvres. Chez Schwob, je n'en donne qu'un exemple parce qu'il est moins connu peut-être, le personnage de l'acteur est l'un des rôles du dialogue philosophique sur l'amour, où il est d'ailleurs aussi question de l'égoïste, un autre rôle, et de marionnette. Claude se projettera plus tard dans l'acteur, hypostase privilégiée aux côtés de l'androgyne. En effet, dans la logique baudelairienne empruntée à De Quincey et reprise par Schwob explicitement, le jeu théâtral permet, en s'aliénant au personnage, d'explorer la multiplicité de son être et de construire des autoportraits fantasmés. Artiste, mystique et criminel pour Schwob, Narcisse, Salomé et tant d'autres mythes pour Cahun, chez qui le bovarisme de Jules de Gaultier semble monter sur scène. Le motif du masque, complémentaire de celui du miroir, exprime une interrogation sur l'identité, développée chez Schwob par exemple dans Le Roi au masque d'or, dont le héros éponyme à sa mort, je cite, a déposé tous les masques d'or, de lèpre et de chair, sans pour autant connaître son visage. Écho direct de ce démasquage sans révélation, le photomontage évidemment du chapitre 9 d'Avenue non avenue, qui représente une enfilade de visages ou de masques de Claude comme sortant les uns des autres, et cerné par la phrase « Sous ce masque, un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ces visages. » Le monde théâtral stimule donc chez l'un et l'autre une réflexion sur la représentation comme seul rapport au réel dans un monde, je cite Schwab, où tout n'est que signe de signe. La reprise par Cain dans Salomé la sceptique de l'accessoire sanglant évoqué par Schwab à propos d'une représentation théâtrale poursuit et détourne la réflexion de celui-ci sur le réalisme irréel. On voit donc que l'artiste Claude Cain s'écarte progressivement du modus vivendi et scribendi de celui qui n'est pas ou plus un modèle, et là, selon l'injonction de Monel, bâti dans les différences. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, deux œuvres au singulier pluriel. C'est pourtant au moment de la plus grande indépendance, de la plus grande divergence, que les résonances travaillent les textes au niveau le plus intéressant. Beaucoup d'expressions de Spicilège, le livre de Monel et Vies imaginaires, très bien connues de Cain, semblent préfigurer les siennes. Inversement, héroïne et surtout aveu non avenu, fourmi d'échos schwabiens. Je me contenterai de dégager quelques pistes que je placerai sous le signe de l'anarchisme littéraire. Singulier. Par vivant, entendez individuel, écrit Schwab dans L'art de la biographie, ce que Cain transposera dans son essai autobiographique. L'un et l'autre s'acharnent à déclasser, à dissocier les idées, les choses, les êtres. Il crée des personnages insolites, atypiques. Elle, avec sa manie de l'exception, compose un moi particulier jusqu'à l'anomalie, à la monstruosité, qu'elle dissèque pour n'en garder que l'extrême pointe. D'une œuvre à l'autre, on passe de l'étrangeté à l'excès, à la surréalité onirique, au sarcasme aussi, car, disait Schwab, le rire démasque une certaine disharmonie du monde. Mais dans les deux œuvres, on retient le détail singulier, pas l'attirail des faits. Il faut choisir, isoler des éléments marquants et uniques pour composer une forme qui ne ressemble à aucune autre. Ces formes travaillent le mystère. « Ne te connais pas toi-même, » dit Monel. « La vérité est un leurre, » répond Cain. Le récit doit intégrer des silences, leçon de Stevenson, des obscurités. Schwab, le pudique, manie l'ellipse dans une esthétique de la suggestion. Cain, l'impudique, postérieure à Apollinaire et contemporaine de Dada, préfère celle du choc. Parataxe plus audacieuse, télescopage, tir de phrases nominales, mettant en pratique le principe de l'action destructrice hérité de son oncle. Pluriel. Le dédoublement ou le redoublement contribue à saper l'illusion de l'unité. Le thème traverse et structure les deux œuvres. Au-delà de la variation sur l'homo duplex de Baudelaire ou de Stevenson, qui permet d'exprimer conflit interne et part obscure de soi. Les ambivalences de Monel, les contradictions et les paradoxes de Cain, l'appariement de figures opposées chez l'un et l'autre, qui culmine avec le Janus christo-satanique de Cain, font table rase de tout système axiologique au profit de l'amoralisme et du scepticisme. Mais, plus encore que double, le moi, comme le réel, est multiple. Monel est la seule, mais elle se décline en 11 sœurs. Pas question d'englober, de réordonner dans le roman un monde atomisé. La pluralité se traduit en tension entre éclatement et sérialité. Le monde est en réalité discontinu, écrit Schwab. Qui va alors lutter contre ce qu'il ressent comme un principe anthropique par des formes closes, une symétrie subtile, des séries de plus en plus construites. A l'inverse, Cain n'a de cesse de déconstruire les formes en systématisant l'hétéroclite. Et tandis que la polyphonie de son oncle est de plus en plus concertante, de mime à la croisade des enfants, la sienne tourne à la cacophonie. Sa génération ne cherche plus à rassembler les membres d'Osiris. Troisième et dernier point, vies imaginaires. Le genre biofictionnel de la vie imaginaire qu'invente Schwab et qui tend à Cain incarne au mieux ce singulier pluriel. Schwab écrivait que se différencier, c'est se concevoir sous un nombre infini de formes imaginaires. Cette infinité provient, entre autres éléments, je simplifie, de la mise en abîme du bovarisme. Dans ses textes, comme dans ceux de Cain, par-delà des différences et dénonciations évidemment, la projection kaléidoscopique de l'auteur dans ses personnages se redouble de celle des personnages rêvant eux-mêmes leur vie pour leur plaisir et pour leur perte. Un mot sur la figure de Dieu. Principe unificateur, garant de la cohérence, de la création et du langage. Il est relégué par Schwob à l'état de point de vue ou de toute puissance, inaccessible à des personnages pathétiquement prométhéens. Caïn le décompose par la dérision, le distribue en rôles variés et dégradants, hypostase de son propre moi hétérogène. Enfin, chez l'un et l'autre, la revendication idiosyncrasique, quoique sous forme éclatée, n'exclut pas une empathie qu'il appelle encore pitié, tandis qu'elle préfère amour, et qui les incline, cette fois je cite Caïn, changé, à prêter leur voix aux muets, modestes, aux morts. Par transitivité, ils en appellent à la sympathie des lecteurs que rendent possible, par l'identification partagée aux figures mythiques, historiques ou littéraires, ces autoportraits masqués, ces aveux à demi proférés, sous une certaine obliquité, aurait dit Breton. Je conclus. En bref, en se démarquant de l'œuvre de Marcel Schwob, Claude Caïn s'affranchit de la lettre, mais en conserve l'esprit, qu'elle exploite plus radicalement. Aventurier passif, comme disait Mac Orlan, il rêvait sa vie à travers celle des autres, dans des récits élégamment distanciés. Elle inventa sa vie dans l'aventure pas toujours invisible de se devenir, explorant des modalités inédites et provocatrices de l'expression du moi. Il ne reste pas moins que leurs œuvres sont traversées par des résonances culturelles et intimes qui tissent de l'un à l'autre quelque chose d'une filiation biaisée, comme filigranée. D'un siècle à l'autre, l'oncle et la nièce ont ceci de commun d'être deux artistes de sensibilité aiguë, de vaste culture, des esprits curieux, aux deux sens du terme, au regard incisif, des consciences qui se cherchent. L'un comme l'autre fut un moderne en son temps, quoique, ou donc, reconnu ultérieurement. En effet, l'un et l'autre, passionnés par les jeux de signes, furent des inventeurs de formes. Enfin, tous deux ont conservé, vis-à-vis l'un du symbolisme, l'autre du surréalisme, pourtant revendiqué, une réserve ironique et lucide. Tous deux brillent de leur singularité d'artiste des lisières, d'être hermétique, de sujet ou d'objet d'infinie métamorphose imaginaire qui sollicite la participation des lecteurs. Je vous remercie.